être 17h à Niamey. Merci de suivre le programme du studio Kalangou. Dans un instant, le journal en français dans une présentation de Rafika Taher. Au sommaire ce jeudi 7 octobre 2021, en prélude du sommet Afrique-France prévu demain à Montpellier en France, une rencontre entre journalistes africains et conseillers français pour l'Afrique a été organisée hier. Les détails avec notre envoyé spécial dans un instant. La population répond favorablement à la campagne massive de dons de sang menée par le Centre national de la transfusion sanguine à Niamey. Pour ce premier mois, la surveillante générale du centre annonce une hausse de 17%. Et dans la partie magazine, nous parlerons des risques de soucis mentaux encourus par les agents humanitaires sur le terrain. Bonsoir chers auditeurs. À la veille du sommet Afrique-France qui se tiendra demain 8 octobre à Montpellier, les sociétés civiles et africaines, les jeunes et les opérateurs économiques sont les seuls invités cette année. En amont, une rencontre entre journalistes africains et conseillers français en charge de l'Afrique et de la diaspora s'est tenue hier à Paris. Talata Abdoubahar, notre envoyé spécial, nous fait le compte rendu de la rencontre.
Paris, 6 octobre. C'est à l'hôtel particulier Marigny, en face de l'Élysée, au cœur de la diplomatie française, qu'une vingtaine de journalistes africains invités au nouveau sommet Afrique-France ont rencontré des conseillers en charge de l'Afrique et de la diaspora. Des échanges en ont suivi. Les journalistes de différentes nationalités ont abordé plusieurs questions, dont celle de la représentativité du monde rural au nouveau sommet. L'un des conseillers a répondu à cela qu'ils sont quand même passés d'un format avec des chefs d'État à un nouvel format avec la jeunesse, que c'est un pas en avant. Ont été également abordées les attentes de la jeunesse africaine vis-à-vis de la France. Le besoin que ressent la jeunesse africaine que la France clarifie davantage sa position politique en Afrique.
Il se tient également en marge du sommet France-Afrique, la troisième édition d'Ambition Africa. C'est un forum qui rassemble des entreprises africaines et françaises. 1500 projets français en Afrique et seulement 30 dossiers africains pour la France ont été traités en 2019 selon Alex Barou, directeur de Business France, l'agence organisatrice d'Ambition Africa. Il est au micro de Talat Abdoubahar.
Alors, Ambition Africa, c'est aujourd'hui le plus grand événement B2B, business, entre entreprises françaises, entreprises africaines. On a depuis 2018 maintenant, donc depuis plus de 3 ans, des entreprises africaines qui viennent sur Ambition Africa, pas forcément pour rencontrer les entreprises françaises, mais pour rencontrer d'autres entreprises africaines. C'était pas forcément notre objectif au départ, mais c'est devenu un événement panafricain. Et on porte beaucoup d'espoir à ce que cette zone de libre-échange redynamise le commerce interafricain.
Pour pallier au manque de sang pendant le pic du paludisme, le Centre national de la transfusion sanguine mène une campagne de masse pour le don de sang. Cette activité, lancée au mois de septembre à Niamey, accueille les donneurs 24 heures sur 24. Selon Mme Soumana Hadiza, surveillante générale du CNTS, la population a répondu à cet appel. On l'écoute au micro de Mama Ada.
Vraiment, on a eu un engouement. On a eu 514 donneurs par rapport au mois d'août. Donc, ce qui fait environ 17% de dons qui ont augmenté donc, par rapport au mois d'août. Ça commence à venir et on prie vraiment que ça soit répandu quoi, dans toute la ville de Niamey et de ses alentours, de la population nigérienne même en général. Parce que là, c'est toute la population qui est interpellée. Pour sauver des malades qui ont besoin de transfusion, il faut du sang humain. Donc chacun n'a qu'à prendre ça en considération et s'il est en bonne santé, donc de venir aider les malades qui ont besoin de transfusion. Le jour où nous on sera dans le besoin, n'est-ce pas, on voudrait qu'il y ait du sang pour qu'on soit sauvé. Donc mais si les gens ne donnent pas, il n'y aura jamais du sang. En tout cas, si au moins 2% ou 3% de la population venait donner du sang, à vrai dire, on n'aura même pas besoin de faire appel aux donneurs de famille.
4 morts sur place et 2 blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit hier aux environs de 18h à Niamey. La conductrice aurait percuté un motocycliste avant de finir sa course dans une boutique en face de la mairie commune 3. Adam Nouri, le propriétaire du magasin témoin de scène, relate les faits au micro de Salamatou Kadri.
J'avais juste fermé la boutique. J'ai tiré la moto pour l'amener dans la concession. À peine arrivé à la porte, et voilà une voiture qui percute un motocycliste. Et de là, la conductrice de la voiture a perdu le contrôle. Au lieu de freiner, elle a accéléré et rentré dans la boutique, écrasant 6 hommes, tous des sourds-muets qui étaient assis à la devanture. Deux d'entre eux ont été blessés. L'un a été touché au pied. Il a quitté l'hôpital national. Je l'ai vu. L'autre a été touché aux yeux. Il a aussi quitté l'hôpital national. Il paraît qu'il se trouve à l'hôpital régional de Niamey où il travaille comme manœuvre. Mais les quatre autres ont trouvé la mort sur place. Leurs corps ont été pris. La conductrice de la voiture et l'enfant qui était avec elle sont sortis sains et saufs. Mais elle a beaucoup paniqué. Je lui ai demandé si elle est blessée. Elle m'a répondu que oui. Je lui ai donc demandé de s'asseoir car je ne voulais pas qu'elle voie les corps des personnes victimes de l'accident. Les agents du service constat sont venus et ils sont partis avec le véhicule.
Depuis quelques années, les autorités nigériennes en charge de l'éducation travaillent pour rendre accessibles les écoles aux enfants en situation de handicap, estime le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées au Niger. Pour lui, le nombre de classes qui ont des rampes d'accès au niveau national est insignifiant. Omar Sido est interrogé par Adam Adawaki.
Généralement, pour les citoyens lambda, quand on parle d'accessibilité, on parle seulement de questions de rampe. Mais il faut imaginer, par exemple, le chemin que l'enfant emprunte de son domicile vers l'école, la cour de l'école, les toilettes aussi, et maintenant les rampes d'accès pour accéder aux classes, les portes des classes, les niveaux des tableaux, etc. Tout cela rentre en ligne de compte pour fournir ce qu'on appelle l'accessibilité aux enfants handicapés. Où est-ce qu'on en est ? Il y a des écoles qui ont des rampes d'accès. Il y a des écoles qui commencent maintenant à fournir l'accessibilité, mais elles sont encore très, très minimes au niveau national. Il y a encore de nouvelles classes qui continuent à être construites et qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, ce qui n'est pas admissible vis-à-vis de l'engagement que le Niger a pris en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. On organise beaucoup de formations à l'intention des ministères en charge de l'éducation pour les amener à comprendre la nécessité de prendre en compte aussi l'accès des personnes handicapées à l'éducation.
En bref, les résultats définitifs des épreuves théoriques et pratiques de l'examen unique de certification en santé qui ont débuté le 11 septembre passé sont désormais connus. Pour cette session 2021, le taux de réussite est de 77,25% contre 84,50% en 2020, soit une baisse d'un peu plus de 7%, a annoncé hier la commission indépendante en charge de l'organisation de cet examen. En effet, 3443 sont déclarés admis sur les 4457 candidats qui se sont présentés aux épreuves théoriques et pratiques. Au total, 11 feux de brousse ont été enregistrés dans la région d'Agadez entre mi-septembre et début octobre. Les zones les plus touchées sont les départements d'Ingal et d'Adarbissanat, où plus de 59 tonnes de matières sèches sont parties en fumée, explique Abdulaziz Yakouba, le directeur régional adjoint de l'environnement d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
Au niveau de la région d'Agadez, nous sommes au total à 11 cas de feu de brousse, un cas de feu de brousse dans le département de Turo avec 15 hectares et 4 cas de feu de brousse au niveau du département d'Ingal avec 1159 hectares, 6 cas dans le département d'Adarbissanat avec 4137 hectares. Les zones les plus touchées, c'est le département d'Ingal et le département d'Adarbissanat. En termes de bilan, Ingal a enregistré 45 tonnes de matières sèches brûlées. À Adarbissanat, 13 tonnes de matières sèches. Un chameau brûlé, c'est-à-dire mort au niveau d'Adarbissanat. La plupart des incendies, à part celui des Turo, est causé par les transhumants, les éleveurs qui sont de passage. Quand ils campent, deux fois ils oublient d'éteindre le feu, deux fois ils sont au pâturage, les enfants vont jouer avec le feu, la paille prend et l'incendie est déclenché.
Parlons art dans cette édition. De passage à Niamey, le street artiste Dakrouz réalise des fresques symbolisant des masques sur les murs du CCFN Jean Rouch de Niamey. Appelé graffiti, ces représentations peintes dans les rues ont l'avantage d'être visibles par tout le monde en dehors des musées traditionnels, même si ce style artistique n'est pas beaucoup développé au Niger. Dakrouz au micro de Ousmane Mamoudou.
C'est de la peinture réalisée sur des murs. C'est né donc à New York, aux États-Unis, dans les années, début des années 70. Et cette culture, elle s'est développée notamment en peignant des trains. Et donc tout ça, ça appartient à l'État. Et l'État n'aime pas trop qu'on s'attaque à ces supports. L'avantage, c'est de mettre justement la culture au plus près des habitants. Que ce soit ici au Niger, en France, aux États-Unis, il y a aussi des populations qui ne vont pas aller au musée, par exemple. Alors que dans la rue, finalement, tout le monde y passe. Et ça, quelle que soit la classe sociale des individus. Et c'est ça, pour moi, l'avantage de l'art urbain. Ce que j'ai pu constater ici, c'est que j'ai aussi pu voir qu'il n'y avait pas, pour l'instant, de scène urbaine. Donc, si ça pouvait susciter des vocations, je pense que ça serait bien.
Un magazine, les humanitaires qui apportent assistance dans les zones de conflit sont le plus souvent affectés par l'environnement dans lequel ils travaillent. Le coordinateur santé mentale et soutien psychosocial à Kopi, une ONG italienne, explique les risques qu'encourent les agents sur le terrain, notamment sur leur santé mentale. Lucien Hamani, interrogé par le studio Kalangu.
Selon l'OMS, la santé mentale et l'état de bien-être est selon laquelle la personne peut être capable de gérer les stress de la vie quotidienne, d'être utile à la société et de vivre en bonne relation avec son entourage.
Comment arrivez-vous à détecter quand un agent de terrain présente des signes de souci mental?
Le fait d'écouter toujours les gens qui vous racontent des histoires traumatiques, de leur souffrance, ça arrive des fois que nos agents, nos psychologues, nos infirmiers psychiatriques prennent sur eux leur traumatisme. Et c'est ce qu'on appelle les traumatismes vicariants, les traumatismes secondaires. Alors, tout ça, ça se manifeste souvent à travers certains comportements. Et il y a aussi des gens qui deviennent trop nerveux, anxieux, agressifs. On les voit aussi à travers la fatigue. Et c'est beaucoup plus ça qu'on rencontre auprès des personnels humanitaires.
Justement, Monsieur Lucien, quelles sont les situations qui pourraient les exposer à ce risque?
Si je prends par exemple la région de Tillaberi, donc quand un village est menacé, des fois ils vont se déplacer, ils sont aussi affectés. Ça, c'est des événements traumatiques. En tant qu'humains, ils ne vont pas rester indemnes, ils ne vont pas rester indifférents à la souffrance des gens. Et souvent, ils sont amenés à prendre sur eux toute la souffrance des personnes qu'ils assistent. Ils sont aussi victimes de ces atrocités, des attaques, des cambriolages.
Et est-ce que les agents qui partent sur le terrain sont préparés à l'avance?
Bon, en fait, normalement, quand on recrute des gens, on les forme, on leur fait des briefings sur la situation sécuritaire, sur le contexte dans lequel ils vont travailler. Aussi, nous avons des formations qu'on appelle la gestion des stress. On leur apprend comment détecter en eux-mêmes les signes de stress ou des traumatismes secondaires liés à leur travail et comment aider leurs collègues et en cas de besoin, comment les référer vers les services spécialisés. Quand il s'agit d'incidents critiques, si c'est des cas trop récents, on fait ce qu'on appelle les premiers secours psychologiques ou les débriefings. Et là, ça prévient l'apparition des troubles traumatiques. Donc, si la personne est prise en charge avant, il y a moins de chances qu'il développe les symptômes traumatiques.
Est-ce que l'agent qui a vécu un traumatisme pourrait, dans le futur, retourner sur le terrain?
Une fois qu'ils ont été identifiés, ils ont été inclus dans les services de prise en charge. Après, il y a une période de suivi qu'on observe pour voir s'ils sont capables de retourner sur leur lieu de travail.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, Tajissir vous présentera le journal en tamashek. Et à 18h15, suivez le forum en Zarma qui parle des agriculteurs du département de Tera face aux ennemis de culture. Comment y remédier? C'est avec Habibou Garba.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et studio Kalangu au rythme du Niger.